Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans France Culture.
Au menu tous les 15 jours, l'actualité culturelle de l'Anjou et plus si affinité. Au micro, nous sommes 7 chroniqueurs à fouiner, dégoter les perles culturelles de la région. 7 dont la seule motivation est la curiosité. Autour de la table avec moi, 2 d'entre eux pour nous faire découvrir les richesses gastronomiques de l'Anjou. Noël approche. Cuisinons et dégustons local. Notre région regorge de belles choses. Au menu, crémé d'Anjou, champignons et vin. Et tout de suite, on commence avec vous, Cécile. Vous nous proposez quoi pour notre réveillon angevin ?
Alors pour moi, ce sera quelques têtes de champignons bien frais. Pour accompagner un pintado rôti avec ses petits oignons grelots. Mais pas n'importe quel champignon, le fameux champignon de Paris, que l'on aurait d'ailleurs dû rebaptiser depuis longtemps champignon de Loire.
Alors pourquoi de Paris ?
Il est arrivé en France vers 1670. C'est Lacantini, jardinier du roi Louis XIV, qui en débute la culture, sur couche, en plein air, dans les jardins de Versailles. Il est ensuite descendu sous terre, cultivé dans les carrières au sud de Paris, puis massivement dans les sous-sols de la capitale, d'où son nom. Mais en 1895, patatras, le métro arrive et il faut trouver d'autres lieux de production. Et le Val-de-Loire, notamment le Saumurois, mais aussi la région de Douai-en-Anjou, regorge de souterrains, de carrières. La culture du champignon de Paris est donc naturellement déplacée dans nos régions. Depuis les années 80-90, avec l'entrée de pays à faible coût de main-d'œuvre dans l'Union européenne, la production a fortement diminué. Mais il reste quelques très bons producteurs qui nous régalent encore. Alors on est allé pour vous, à la source, visiter la cave vivante du champignon au Puy Notre-Dame. C'est aujourd'hui la 3e génération qui cultive le champignon dans la famille et qui préserve soigneusement ce patrimoine passionnant. Et c'est Jacques Rouleau, le doyen, qui nous fait la visite.
On va descendre à l'abri du temps qui passe dans ces caves séculaires, habitées jusqu'en 1938 par ces gens du monde agricole qui n'ont pas d'argent pour avoir une maison à l'extérieur. Ce n'est qu'à partir de 1950 que mon papa commence à cultiver le champignon, le petit champignon de Paris. Il est arrivé chez nous dans notre village depuis Notre-Dame en 1900. Et dans les années 1970-1980, c'était le premier village de France. On en produisait pratiquement 60 tonnes par jour. 600 personnes travaillaient autour du champignon dans notre village. Notre village, 120 km de galeries souterraines. Cette pierre qu'on appelle le tuffeau a servi essentiellement pour la pierre de construction des maisons. On va descendre dans des températures qui peuvent aller jusqu'à 17 degrés, pratiquement naturelles, liées au compost qui va apporter cette chaleur.
Alors ces souterrains sont des souterrains de plaine, contrairement aux troglodytes du Saumurois. On y descend par des rampes d'accès. Imaginez, ils ont été habités jusqu'en 1938, incroyable pour nous. Mais les plus anciens souterrains datent au moins du 9e siècle. Il fallait s'abriter sous terre, des guerres et des invasions, vikings notamment. Rien de nouveau sous le soleil malheureusement. C'est donc une culture cachée, à l'abri. Jacques Rouleau nous explique comment ça se passe.
Comme il y a 200 ans, on utilise toujours le fumier de cheval. C'est du fumier de cheval qui nous arrive de la région de Saumur, bien évidemment, mais aussi de la Normandie, de la région parisienne, de la paille de blé locale, de l'eau, trois éléments indissociables, mélangés sur ce qu'on appelle des centrales de compostage. Ce sont des grandes plateformes extérieures. Le matériel est mis en commun par les championnistes pour eux-mêmes. Et 3 semaines durant, on va mélanger ces éléments pour en faire un compost. Essayer d'en faire une matière dégradée. Rappelons que le champignon de Paris est un champignon qu'on appelle un saprophyte. Il vit de matière en décomposition et nous, le champignoniste, nous allons préparer un compost dégradé qui va permettre aux filaments mycéliens de se développer et de produire des champignons. Alors c'est vrai que ce mycélium, c'est le nom scientifique de cette semence. Depuis 1890, c'est préparé par des laboratoires, c'est leur métier. Ils produisent la semence pour que le champignoniste puisse produire des champignons. À partir d'une spore, c'est-à-dire ces petites graines qui se trouvent à l'intérieur des lamelles sous le chapeau, et ce mycélium va être mis dans ce compost et on aura une période qui va suivre qu'on appelle la période d'incubation, qui est environ une période d'environ 2 semaines. Où le mycélium va envahir l'ensemble du compost. Et ce compost va être recouvert par la suite d'une couche qu'on appelle de gobotage, qui est un milieu fait de tuffeau broyé mélangé à de la tourbe, qui est en quelque sorte un réservoir à eau du champignon, qui va permettre au compost de ne pas s'assécher. Et ça, c'est le plus important. Et finalement, après le gobotage, eh bien, on a les champignons enfin 3 semaines après. Rappelons que depuis que j'ai commencé à parler, on a déjà passé 9 semaines de travail. Ces 9 semaines de préparation vont permettre de produire des champignons pendant environ 3 semaines. Le cycle est bouclé.
On entre après dans la salle de fructification. Et alors là, pour tout vous expliquer, on est dans le noir, à la lampe frontale. L'atmosphère est chaude, saturée d'humidité. On suit toujours Jackie Rouleau.
Là, on rentre dans une salle de fructification. Ces grands bacs de culture de 370 kg de compost avec le gobotage. Et là, on va gérer l'envahissement mycélien de la terre de gobotage et surtout la fructification, c'est-à-dire le début de ces champignons qui vont être formés. Et si vous voulez, eh bien, on va commencer à voir les premiers petits grains, vous voyez, blanchâtres. On va regarder d'ailleurs la température. On a des composts, vous voyez, qui sont à 27 degrés. Ces bacs vont rester pendant environ 1 semaine et par l'intermédiaire de ventilation, eh bien, on va descendre la température à environ 23 degrés en apportant un peu d'oxygène aussi aux champignons pour qu'ils puissent se développer de manière à avoir une fructification bonne mais pas trop garnie. Pourquoi ? Parce que ce sont des champignons qu'on doit cueillir à la main. Or, s'il y a trop de champignons, ils sont trop serrés, c'est trop difficile. Il faut essayer de sauvegarder à la fois le volume, mais surtout la qualité. Rappelons que ce sont des champignons qu'on va cueillir tous les jours pour aller les livrer dans les petits magasins locaux et puis nos amis les restaurateurs.
Et donc après cette étape, c'est la cueillette, toujours dans le noir, dans d'autres couloirs un petit peu moins humides. Les champignons donc arrivent à maturité en ordre dispersé, c'est donc un travail de fourmi. Alors ces champignons, vous l'avez compris, ne sont pas arrosés, cela préserve la saveur. L'air des caves et l'humidité du compost suffisent, il n'y a pas de traitement chimique, il n'y a pas d'engrais. Alors évidemment, on a posé la question du bio.
Vous employez un mot que personne à ce jour a été capable de m'expliquer. Et en aucun cas, on est capable aujourd'hui en France de produire un support qu'on appelle le compost bio. Les règles sont si compliquées, si difficiles à appliquer, que les quelques producteurs de champignons dits bio le produisent sur des composts qui arrivent de l'étranger, avec des camions qui fument noir comme ça. C'est dit.
Voilà, la remarque de Jackie Rouleau est à méditer. En tout cas, je peux vous dire qu'on s'est permis de tester sur place les petits champignons de Paris, de nos caves ligériennes, et ils sont absolument succulents. À consommer donc pour les fêtes, sans modération.
Une petite pause musicale dans l'esprit de Noël avec Michael Bublé, Blue Christmas.
Without you, I'll be so blue, just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue or snowflakes are falling, that's when those blue memories start calling. With your Christmas of white, and I have a blue, blue, blue Christmas.
Campus, on est toujours sur Radio Campus à l'écoute de Franche Culture. Les réveillons approchent. Avant de savoir assortir nos mets à nos vins, pourquoi ne pas faire un petit tour d'horizon de nos cépages d'Anjou avec une spécialiste de terrain, Valérie Aubergeau. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Vous êtes à la tête d'une micro-entreprise créée en 2016, Les Vignes selon Val. Vous êtes partie d'un constat simple. Pour beaucoup de vignerons de la région, l'œnotourisme se résumait à une visite de leur cave et une dégustation, point à la ligne. Vous avez décidé d'aller plus loin pour faire découvrir au public notre région viticole. Vous faites de l'œnotourisme. Expliquez-nous votre activité.
Alors en fait, je propose des randonnées commentées, donc sur des thèmes autour de la vinification, de la vigne, du terroir. Donc ce sont des randonnées qui sont accessibles toute l'année, 7 jours sur 7 à partir de 2 personnes. J'ai plusieurs thèmes et les balades s'échelonnent entre Savenières, la vallée du Layon et Brissac. Donc ce sont toujours des randonnées qui sont accompagnées d'une dégustation de vin en rapport avec le thème choisi. Comme ça, ça permet en fait de découvrir l'univers viticole et puis après justement de se familiariser un peu au travail des vignerons avant de décider d'aller pousser leurs portes et découvrir un petit peu plus ce qu'ils font.
Il y a une autre chose que vous pouvez préciser, c'est avec quoi vous vous promenez dans vos sacs à dos pendant les randonnées pédestres.
Alors en fait, comme on visite les vignes avec moi à un instant T de l'année, on ne peut pas tout voir. Donc j'ai tout un lot de photos qui permet de découvrir la vigne tout au long de l'année. J'ai également un énorme stock de pierres, parce qu'on est quand même sur une zone géologique très intéressante. Donc un petit peu pour expliquer tout ça, j'ai des cartes aussi, j'ai des échantillons viticoles, plein de choses à découvrir.
Alors l'Anjou, c'est une terre de chenins. Est-ce que c'est une terre de grands blancs ?
Oui, nous sommes une terre de grands blancs grâce à ce fabuleux cépage. Alors il faut quand même savoir que notre territoire est très particulier parce que nous sommes à cheval sur deux formations géologiques très différentes. Nous avons le massif armoricain à l'ouest et le bassin parisien à l'est.
Je vous coupe, est-ce que c'est ce qu'on peut appeler l'Anjou noir et l'Anjou blanc ?
Exactement, le massif armoricain c'est l'Anjou noir alors que le bassin parisien c'est l'Anjou blanc. Et l'Anjou noir est justement une terre de prédilection pour le chenin parce que ce cépage a une faculté exceptionnelle, c'est qu'il est ce qu'on appelle un passeur de terroir. Ça veut dire que plus son réseau racinaire va s'étendre, plus il est capable de retranscrire les caractéristiques minérales du sol dans le vin. Il efface ses propres arômes de raisin au profit du sol, ce qui permet notamment sur les vins secs d'avoir une richesse d'arômes exceptionnelle.
Alors, est-ce qu'en Anjou, on va avoir des vins moelleux, des doux, des secs, des pétillants ?
Oui, parce que je pense que vous connaissez tous nos fabuleuses appellations Coteaux de l'Aubance et Coteaux du Layon. Et on a quand même sur la vallée du Layon un endroit exceptionnel qui s'appelle Chaume, où on produit les seuls premiers crus et grands crus de la vallée de la Loire, qui sont le Coteaux du Layon premier cru Chaume et le quart de Chaume grand cru. Donc, qui sont des vins moelleux, c'est-à-dire qu'on va laisser les raisins se concentrer sur la vigne et ils vont être attaqués par un champignon qui s'appelle le Botrytis cinerea et sous son action, la peau des raisins devient poreuse et l'eau contenue dans les grains s'évapore et ainsi on va concentrer la matière dans les raisins. Donc sur ces premiers crus et grands crus, vous avez des raisins qui sont extrêmement confiturés et c'est un régal dans la bouteille.
Alors c'est un régal dans la bouteille. Est-ce que ça va être un régal avec quelque chose dans notre assiette ?
Oui, alors pour commencer par les moelleux, il faut laisser tomber absolument les vins moelleux avec le dessert. Alors surtout à Noël, on a tendance à un petit peu abuser. Si vous voulez profiter des moelleux, il faut le faire en début de repas ou au moins avec du salé. Alors on connaît tous le fameux foie gras avec les moelleux. On peut faire des charcuteries beaucoup plus simples comme des mousses de foie. On est sur une pâtisserie de Rio. Et Rio moelleux, c'est génial. Mais pour moi, le top, c'est vraiment les fromages persillés. Si vous aimez...
Attendez, je vous arrête parce que vous êtes passionnante et moi j'ai faim. Mais maintenant, vous expliquez ce que c'est qu'un fromage persillé.
Eh bien, c'est toute la famille des bleu, Roquefort, Fourme d'Ambert, même le Gorgonzola en Italie. Vous faites un petit apéro où vous mettez par exemple un petit peu de Roquefort, un morceau de poire et vous servez ça avec un beau moelleux, un chaume par exemple. Et alors là, c'est super.
Alors moi, je vais revenir sur les secs, les blancs secs. Vous les servez avec quoi ?
Alors, on a beaucoup de blancs secs très intéressants en Anjou et notamment l'appellation savenière. Les savenières ne sont pas des vins, c'est pas, excusez-moi, le petit coup de blanc qu'on va boire à 11h quand il fait chaud l'été.
Oui, alors moi je vous arrête encore parce qu'il est bien sympa le petit coup de blanc de 11h quand il fait chaud l'été.
Oui, mais on va pas prendre du savenière pour ça. Le savenière, on va le garder pour le repas. Et notamment, sur savenière, on a des très beaux terroirs de schiste et le schiste va apporter dans le blanc des arômes qui vont être légèrement fumés. Et quand on va aller sur des vins qui vont vieillir, eh bien, on va avoir des accords formidables, notamment avec les champignons. Donc, si vous aimez les blancs, les vins, par exemple, les volailles en sauce à la crème avec des champignons ou la blanquette de veau, essayez ce genre de vin. Je peux vous en conseiller, il y en a plein, hein, mais je vais vous en conseiller un, c'est celui de Florent Beaumard, domaine des Beaumards à Rochefort-sur-Loire, qui produit un savenière, le Clos Saint-Yves, quand il vieillit, je trouve que c'est le meilleur accord avec la blanquette de vos champignons.
Voilà. Ah bon, bah écoutez, alors, on a quand même un fil conducteur, le champignon, hein, et, voilà. et du bon vin. Le pétillant à l'apéro ?
Oui, alors bah, on peut très bien aller sur les créments de Loire. Hein, alors le crément de Loire, attention, ce n'est pas que du chenin. C'est souvent en assemblage, mais c'est quand même un cépage majoritaire chez nous. Bon, on va peut-être me jeter des pierres, mais moi, je recommande plus le crément de Loire souvent que le Saumur, parce que le crément de Loire a quand même, dans son cahier des charges, le fait d'être vendangé à la main, comme le champagne. Donc, on a une qualité de vendange qui est supérieure, souvent. Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac. Et on a des très beaux créments. Si vous voulez un crément de fête, bon, c'est un petit peu cher, mais je vous oriente vers le domaine de Lif Vincendo, également à Rochefort-sur-Loire, qui a notamment une cuvée de Zeitplotz qu'elle fait vieillir 3 ans avant la vente. Donc, c'est des bulles très fines, c'est magnifique.
Le pétillant n'a rien... Le pétillant de Loire, le crément de Loire, n'a rien à envier au champagne ?
Alors, c'est pas les mêmes... Alors, c'est vraiment une histoire de goût, parce que c'est pas les mêmes cépages, on est d'accord. On n'est pas non plus sur la même longueur d'élevage. Donc, on a parfois sur le champagne quand même des bulles qui peuvent être un peu plus fines. Mais on a d'excellents producteurs de créments qui vous permettent de faire des magnifiques accords ou des belles, voilà, des beaux apéritifs sans aller forcément chercher très loin de chez nous.
Eh ben écoutez, merci Valérie Aubergeon de nous avoir si bien renseigné sur les vins de Loire. Je crois que pour choisir au mieux les vins, il faut comprendre l'influence du terroir sur ces vins. Et donc, je conseille à tous nos auditeurs une petite balade avec vous, hein, en votre compagnie, pour découvrir le terroir. Et une petite question piège avant de vous quitter, parce qu'on va continuer sur le crémé d'Anjou. Alors, on boit quoi avec le crémé d'Anjou ?
Alors, avec le crémé d'Anjou, moi, je resterai peut-être sur les bulles. Et peut-être des bulles rosées si jamais on accompagne le crémet avec un petit coulis de fruits rouges comme on peut le faire.
Eh bien écoutez Valérie, que la fête commence.
Merci.
Franche Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Et enfin, le plus délicat, le plus onctueux des desserts avec nous, Marie, et votre invité, qui nous présente le crémé d'Anjou, une petite douceur de chez nous.
Sophie David-Auvray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice et la présidente de l'association du crémé d'Anjou. Le crémé, un petit dessert mousseux tout simple qui a failli tomber dans l'oubli. Une recette, c'est d'abord des ingrédients. Et ici, ils sont très peu nombreux, juste 3.
Oui, pas grand-chose. Hein. Alors, une base de crème fraîche, et puis du blanc d'œuf, et puis parfois du sucre, mais c'est pas obligé, et puis parfois un petit arôme.
Alors, le secret du crémé d'Anjou, sa subtilité, c'est plutôt le tournemain. Il faut être patient et méticuleux pour le réussir, en fait.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le mot crémé, c'est un mot angevin, et en soi, ça veut dire fouetter la crème jusqu'à la limite du beurre. Donc en fait, le tournemain, c'est celui-là, c'est oser aller jusqu'à la limite du beurre. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à la chantilly, en fait, ce n'est pas une chantilly.
Voilà, c'est entre la chantilly et le beurre, il faut avoir l'œil.
C'est ça.
C'est à l'œil qu'on...
Alors c'est à l'œil, moi je dirais au nez, en fait.
Au nez ?
Oui, parce que quand on utilise une crème crue, parce que normalement, hein, la crème, c'est un produit de saison. Maintenant, on en a toute l'année, elle est pasteurisée, on ne se rend pas compte. Mais si on a la chance d'avoir une vraie crème de saison, eh bien, au moment où on atteint presque le beurre, il y a vraiment des arômes qui se développent, qui sont des arômes de foin, par exemple, de prairie. C'est chouette.
Donc voilà, c'est dans le tournemain. Donc ni la chantilly, ni le beurre, quelque chose de plus délicat, mousseux. Alors, en quoi est-elle angevine, cette recette ? Parce que quand on s'intéresse un peu, ben, y a un crémé nantais, y a un crémé d'Angers, il y a un non-crémé d'Angers, il y a aussi d'autres préparations, on va dire fromagères, c'est un peu rapide de le dire, mais le Fontainebleau qui peut y ressembler. Certains qui ne comprennent pas la subtilité vont dire, oh, ben, finalement c'est une chantilly, ça veut dire qu'elle est un peu ratée. Ça veut dire qu'il est un peu raté de crémé. Alors c'est quoi vraiment ? Qu'est-ce qu'il y a d'angevin dans le crémé d'Anjou ? Bah,
alors déjà, il y a le mot, c'est ce que je disais. Y a le mot
le mot crémé, qui est un ancien...
C'est un mot du patois angevin.
C'est un mot du patois angevin.
C'est un mot du patois angevin. Il est répertorié dans le glossaire Verrier-Onillon de 1907 ou 8, je ne sais plus, et qui est vraiment décrit comme ça, hein, le moment où la crème va tourner au beurre, donc juste avant. Donc ça veut dire que c'est une technique culinaire. Un chef pouvait demander à faire un crémé, et on savait à quoi ça correspondait. Pour avoir étudié beaucoup la cuisine française, c'est un mot que je n'ai pas retrouvé ailleurs. Donc on peut penser vraiment qu'il est angevin. Après, le crémé nantais est arrivé après. Le Fontainebleau arrive une centaine d'années après le crémé. Alors après, qu'est-ce qu'il a d'angevin ? Je n'en sais rien. Vous savez, c'est comme toutes les recettes. Il y a un statut de la spécialité, en fait, hein, quand on s'intéresse à ce que c'est qu'une spécialité. Les critères en université, c'est que déjà, on ne sait plus d'où ça vient, on ne sait plus qui c'est. Puis il y a un territoire. Donc nous, on sait qu'il y a un territoire géographique.
Ça, c'est sûr, le territoire. Voilà. Et la date d'apparition, alors ?
Alors, on est aux archives municipales d'Angers, où on a 1700, 1703, 1702, 1704, où on a ce mot crémet, alors avec une orthographe qui diffère, avec l'accent circonflexe. Pas d'accent, deux M, un T, pas de T, enfin voilà. Et donc là, on ne sait pas exactement ce que c'est, hein, parce que les seules traces que nous avons, ce sont des mémoires de frais, c'est-à-dire que ça correspond aux factures.
Oui.
Et donc il n'y a pas de recette écrite. De toute façon, la recette écrite, elle arrive après la Révolution, hein, c'est l'apparition des livres de cuisine, en fait. Donc avant, il y a une tradition orale, et donc ça ne se transmet que par savoir-faire. Et donc on ne l'a pas. Par contre, on sait qu'à la cour de Louis XIV, il y avait des choses qui ressemblaient à ça, qui étaient donc des préparations égouttées à base de crème. Alors qu'est-ce qui fait que c'est angevin ? C'est peut-être l'ajout des blancs d'œufs, parce qu'en effet, dans les recettes que l'on trouve sous Louis XIV, hein, donc là, il n'y a pas de blancs d'œufs.
Alors comment vous êtes tombé, vous, dans le crémé d'Anjou ? Comment vous l'avez découvert ?
Ben voilà, moi, j'avais décidé d'ouvrir des chambres d'hôtes et de faire table d'hôtes. Et je me suis dit, ce qu'il y a d'intéressant quand on fait table d'hôtes, c'est de servir à manger local. Or, moi, je suis parisienne à la base, et quand je suis arrivée là, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le manger angevin ? Et j'ai trouvé étonnant que pour moi, ça soit une des rares régions de France dans lesquelles on arrive sans savoir ce qu'on va manger.
Oui, il n'y a pas grand-chose.
Et il n'y a pas de réputation. C'est pas qu'il n'y a pas grand-chose, c'est qu'il n'y a pas de réputation.
Oui, il y a beaucoup d'ingrédients, voilà. Beaucoup de produits.
C'est ça. Et dans les critères universitaires dont je parlais tout à l'heure, il y a ça. Il y a à un moment donné, la spécialité sort de son territoire, c'est par sa réputation. Or, nous, nos recettes n'ont pas de réputation. On a une cuisine de cour. En fait, hein, l'Anjou, c'est une terre aristocratique. Ouais. Donc, on s'est évertué à copier ce qui se faisait à Versailles, principalement. Et donc, on a une identité culinaire, mais elle est très peu sortie de chez nous. Alors, moi, j'ai décidé de faire à manger angevin. Donc, je suis partie à la recherche des recettes angevines. Voilà. Et puis, un jour, ma belle-mère me sort des moules à crème et d'Anjou de son placard en disant...
Les petits moules
en forme de cœur,
avec des trous au fond, pour que ça s'égoutte.
Voilà. Et elle m'a dit, puisque tu veux faire à manger angevin, commence donc par faire des crémés. Et j'ai trouvé le moule extraordinaire et je me suis dit, des crémés, chouette, ben oui, pourquoi pas, sauf qu'il n'y avait plus de moule, ça n'existait plus. Et puis il n'y avait plus personne qui faisait le crémé. Donc tout à l'heure, vous parliez de crémé d'Angers et crémé d'Anjou, il y avait le crémé de Saumur, il y avait un crémé à Cholet aussi. Mais à aucun moment on ne me parlait de fromage blanc ou de faisselle. Et ça, je suis catégorique, puisqu'en fait, les premières recettes écrites dans lesquelles on trouve du fromage blanc ou de la faisselle, c'est dans les années 1990.
Bien après.
Voilà,
c'est non, bien nous, après. On est à la crème fraîche, au blanc d'œuf un peu, voilà, vieilli au sucre. Voilà.
Avec un moule très particulier, hein, ouais, parce que par contre, le cœur...
Un tout petit moule en cœur.
Ouais, ouais, on l'a depuis très longtemps. Hein, 1850, 1860, il y a déjà des cœurs.
Et il est refait actuellement. Donc vous avez commencé à tirer un fil et créé une association en 2015, une association du Crémet d'Anjou, qui est très très active. Vous avez plein de moyens d'action. Alors qu'est-ce que vous avez... Vous êtes contente de ce que vous avez fait jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous avez réussi à mener? Non, vous avez fait beaucoup de choses. Il y a un livre magnifique.
On a fait plein de choses. On a fait plein de choses. Et puis surtout, je pense que ça y est, maintenant, le Crémet est revenu dans la mémoire des Angevins. Il n'était pas complètement parti. Les anciens se le rappelaient. Donc, on a fait déjà ce travail-là, c'est-à-dire récupérer la mémoire existante avec une intervention universitaire, donc avec des mémoires qui sont conservées. On a... accumuler tout un tas d'objets. Donc, on va ouvrir un musée du Crémet d'Anjou.
Ouais, là, pour l'instant, vous avez une exposition qui peut être itinérante.
Voilà,
vous allez créer,
c'est ça.
Un musée.
Mais okay. on va l'installer au Puy Notre-Dame. Ouais. On parlait de Jackie Rouleau, donc on est à côté. Et puis, on a lancé donc, la fabrication des moules. Donc, on a
une céramiste.
Alors, on a à la fois une céramiste, la Rose Bleue à Douai-la-Fontaine, qui a été la première à nous suivre dans l'aventure et qui on commercialise toujours. Ensuite, on a l'IGP Porcelaine de Limoges. Donc, on a un porcelainier qui nous suit aussi. Et puis là, on a surtout une école en Bourgogne, c'est ça qui est étonnant, une école nationale de céramique et des métiers d'art qui lance d'ailleurs cette année son premier concours autour du moule à Crémet d'Anjou.
Ben, c'est important un moule parce que ça qualifie aussi un gâteau. La madeleine a son moule. Bon, le Crémet d'Anjou a son petit moule.
Il a son moule, exactement.
En forme de tien. Vous avez aussi rédigé un livre.
Avec, plusieurs même.
Plusieurs, mais au moins un principal avec une centaine de recettes. Vous avez sollicité tous les chefs là autour. Donc en fait,
voilà. J'ai eu un accueil extraordinaire.
Donc il y a des crémets aux champignons, hein, puisqu'on y est, je n'y ai aussi.
Oui, en fait, ça
c'est... peut se décliner au salé.
Oui, alors c'est vraiment moi qui l'ai apporté. Parce que dès que j'ai trouvé la recette, je me suis dit, mais je suis sûre qu'on peut faire quelque chose de salé avec ça. Et quand je l'ai confié au chef, il y en a plein qui ont dit « Oh là là, mais oui, c'est une base. » Donc,
voilà, tout le monde s'est amusé, ils se l'est approprié.
Ouais, voilà.
Alors, la prochaine étape, c'est la demande d'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On sait que la baguette de pain a eu son inscription, mais voilà. Alors bon, quelle est l'utilité de cette inscription?
Alors, l'utilité, en fait, quelle est l'utilité de n'importe quelle inscription au patrimoine? C'est pas d'en faire un musée, justement, d'en faire un truc mort, mais c'est de l'inscrire dans un patrimoine vivant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune recette inscrite au patrimoine de l'UNESCO qui ne soit vivante. Oui. C'est un des critères.
Pizza napolitaine, baguette française, kimchi coréen.
Il faut que ça soit vivant. Donc, il faut que nous, on prouve que c'est vivant. Et si on n'arrive pas à prouver que c'est vivant, on sera recalé. Donc, on va d'abord demander une inscription sur la liste représentative du patrimoine. Et on commence, en fait, par l'inscription sur la liste représentative française.
Voilà. Et après,
voilà.
Alors, si on veut le goûter, ce petit Crémet d'Anjou, on fait comment? On va où?
Alors, ça dépend où on est. Alors, il y a plusieurs restaurateurs qui le font. Il y en a qui ne peuvent plus l'enlever de la carte. Hein. Moi, j'ai un copain à Saumur, justement, l'alchimiste, le restaurant L'Alchimiste, François Deplagne, qui au début a fait ça pour s'amuser et qui maintenant dit bah, « je suis obligée de le laisser, en fait, parce que c'est devenu un dessert
voilà,
identitaire. »
C'est comme ça. Hein,
À Angers, il y a la boulangerie Bartholex, du côté de la place de la Madeleine, d'accord, qui en fait beaucoup aussi et qui ne peut plus non plus l'enlever de sa boulangerie.
Et puis, il faut aller regarder... sur le site internet pour trouver la recette.
Oui, voilà, c'est simple, parce que ça, c'est... Alors, on a vraiment...
Et faire sa propre recette, c'est... Voilà,
on a le soutien politique hein, du département qui fait qu'on nous a financé, par exemple, une vidéo pour montrer aux gens comment faire le crémet. Donc, c'est www.crémetdanjou.net.
Sophie David-Auvray, merci.
Merci à vous.
Donc, voilà, rendez-vous sur crémetdanjou.net et sur le compte Facebook pour les gourmands.
Merci.
C'est la fin de Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci de nous avoir suivis sur Radio Campus. Retrouvez-nous pour la rediffusion de l'émission dimanche prochain à 11h30. Et surtout, si vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à partager notre podcast ou nous liker sur les réseaux sociaux.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.